Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
OK, c'est l'heure de parler avec Nancy Audet, qui est journaliste, conférencière, ex-enfant de la DPJ, marraine pour la fondation du Centre jeunesse de Montréal aussi. Et elle anime une nouvelle émission qui s'appelle Être famille d'accueil. Ça va être diffusé cet automne à la chaîne Moi et compagnie. Salut Nancy!
Salut Patrick.
Nancy, on s'est parlé il y a quelques jours de boxe et là, tu nous as dit, j'aimerais vraiment revenir à l'émission parce que je veux parler d'un problème là qui afflige la DPJ présentement. Ce sont les enfants qui sont en attente d'évaluation. Il y a 4000 enfants qui sont en attente. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Ben, c'est énorme. C'est du jamais vu. Puis je me souviens que quelques années, Patrick, avant que j'ose parler de mon passé d'enfant de la DPJ. Ça a été long avant que j'accepte d'en parler. Tu le sais, hein, c'est des histoires qui sont un peu compliquées, qui sont difficiles. On a du mal à partager par rapport à ça. Je me souviens qu'à l'époque, je dormais pas bien parce qu'il y avait 1000 enfants qui étaient en attente. Et puis je me disais, il va arriver quelque chose. C'est ça qui m'avait déterminée à parler. Et puis quelques semaines plus tard, il y a une petite fille à Grimby qui est morte dans des circonstances terribles. Donc là, aujourd'hui, je vous parle, 2 ans plus tard, puis il y en a 4000 en ce moment. Et ça, encore une fois, moi personnellement, Patrick, ça m'empêche de dormir en tant que journaliste, mais en tant que maman, en tant que Québécoise, je me dis, il y a 4000 enfants où il y a eu un signalement. On s'inquiète pour leur sécurité, mais on n'a pas le personnel actuellement pour aller évaluer leur dossier. C'est clair que parmi tous ces enfants-là, il y a des enfants qui ont besoin de nous en ce moment, des enfants qui ont besoin qu'on les protège, parce qu'on le sait qu'il y a un pourcentage important d'enfants, il y a des signalements parce qu'il y a des violences corporelles. Je sais qu'on n'aime pas ça, parler de ça, puis mon Dieu, qu'on aime quasiment mieux ça, se boucher les oreilles, tout ça, se fermer les yeux, mais la réalité, c'est qu'il y en a encore beaucoup. Donc, des violences corporelles, de la négligence grave aussi qui met en danger ces enfants-là. Donc, je me dis, à partir de quand on va lever le drapeau rouge pour dire « Hey, il faut qu'on trouve des solutions, c'est urgent, parce que malheureusement, il va encore arriver quelque chose. » Puis encore une fois, on va dire « Ben, on a fait notre possible, mais on n'a pas réussi. » Mais combien de fois on va accepter qu'il arrive quelque chose à un enfant avant d'arriver, puis c'est maintenant qu'il faut trouver des solutions. C'est pas compliqué, là. Il faut qu'on trouve des solutions maintenant. Puis là, je vous parlerai pas du personnel qui quitte le bateau en ce moment, là, parce que ça, c'est terrible aussi. Il va falloir trouver une façon de faire de la rétention.
Mais en fait, Nancy, c'est difficile de parler de signalement en attente, puis pas de parler de rétention de personnel, parce que si tu manques de staff, tu pourras pas envoyer des employés faire des évaluations dans les familles.
Puis moi, on me dit qu'en ce moment, je parle avec plusieurs intervenants. Et puis, ils me disent tous la même chose. Ils sont à bout de souffle. Ils sont épuisés. Ça tombe comme des mouches. Quand c'est pas des départs à la retraite, quand c'est pas des gens qui décident carrément de changer de carrière, ils sont découragés. Ils sont plus capables de croire que les choses vont s'améliorer. Puis là, les gens sont tellement épuisés parce qu'on les oblige à faire du temps supplémentaire. Il y en a qui me disent on se sent coupable parce que les enfants ont besoin de nous. Donc, ça a un effet que même si on est épuisé, on n'est plus capable, on n'a pas le choix de rester. Les enfants ont besoin de nous. Ça, je vous parle des intervenants qui travaillent dans le système, qui évaluent les signalements, autant que les intervenants qui travaillent en ce moment en centre de rééducation. Hein, il y a des centaines d'enfants au Québec qui sont en centre de réadaptation. Puis on me dit que c'est terrible la situation en ce moment-là. Il y a quelqu'un qui quitte, qui donne sa démission. Il y a personne pour le remplacer, là. Puis c'est pas aider les recrues aussi qui arrivent, les recrues qui arrivent dans le système, qui se rendent compte après quelques semaines, quelques mois que c'est invivable, puis qu'ils lâchent ça tout de suite, là. c'est pas de les aider. Donc, je sais pas quelle solution on va trouver pour convaincre les gens de se lancer dans cette profession-là. Il y a un manque criant de personnel. Je pense qu'il va falloir se concentrer sur ceux qui sont là puis les traiter comme il faut, Patrick, parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont besoin là qu'on reconnaisse ce qu'ils font puis qu'on s'occupe d'eux en ce moment, parce que sinon ça va juste continuer, ils vont continuer à partir ces gens-là, puis les enfants ont besoin d'eux, puis nous aussi, je pense en tant que société, on a besoin de ces gens-là qui s'occupent de des enfants qui ont connu de grandes difficultés, qui ont connu des traumatismes puis qui n'ont pas de famille actuellement.
Nancy, il y a aussi une pénurie de familles d'accueil. Ça, comment on explique ça?
C'est la même chose. Il y a beaucoup de familles qui ont décidé de quitter le bateau dans les dernières années. La pandémie a été difficile, là, y compris pour les familles d'accueil. Quand je parle aux différents syndicats, là, il y en a deux grands au Québec, on me dit qu'on a perdu énormément de familles. Et quand je lis dans les journaux, dans les dernières semaines, qu'on pensait en Mauricie ouvrir un foyer de groupe pour des bébés, pour des petits bébés de 0 à 3 ans. Moi, ça vient me chercher profondément. C'est inacceptable. Je peux pas croire qu'on est rendu là. Quand je lis qu'on a loué un chalet parce qu'on sait plus où mettre les enfants, on les entasse dans des chalets, puis on se dit que ça va être temporaire, mais que finalement, 8-9 mois plus tard, les enfants sont encore là parce qu'on sait pas quoi faire des enfants. Parce que là, on n'a plus de famille d'accueil. Juste en Mauricie, en ce moment, il y a 100 places. On n'arrive pas à trouver de place pour les enfants. À Montréal, en ce moment, là, il y a tellement de demandes de placement pour les petits enfants de 0 à 5 ans et il n'y a plus de famille d'accueil. On ne sait plus où mettre les bébés, les petits enfants. C'est inquiétant. Puis je suis comme étonnée qu'il n'y a pas personne qui est sorti encore pour dire « Hey, il y a quelque chose de grave qui se passe en ce moment. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Honnêtement, je suis super inquiète. »
Écoute, il y a quelqu'un qui m'écrit en parlant de famille d'accueil, là, puis regarde, évidemment, j'ai pas vérifié ça, mais j'en parle parce que j'ai souvent entendu parler le même genre de témoignage, là, des gens qui auraient voulu être en banque mixte, par exemple. Okay, là, ça, c'est une forme d'adoption et on a été refusé pour un meuble usé et un plafond un pouce trop bas. J'ai souvent entendu ça, que les critères sont extrêmement tatillons. Et si je me souviens bien, là, Mme Laurent, dans son rapport, avait abordé ça. Il faudrait peut-être mettre un peu d'eau dans notre vin à DPJ pour ça.
Ben oui, puis tu sais, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on va être extrêmement exigeant envers les familles d'accueil, mais que souvent, Patrick, on va renvoyer des enfants dans des familles biologiques où...
Il n'y a rien d'optimal, mettons.
Il n'y a rien d'optimal, OK? Dans des familles, on va dire, inadéquates où il y a un climat très toxique, puis on va souvent, c'est pas un secret, là, qu'il y a des enfants qui vont faire 3, 4, 5 familles d'accueil de suite. On les renvoie, on les ramène, on les renvoie. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on abaisse les critères parce que c'est quelque chose que j'entends continuellement. Il y en a des gens qui ont envie de devenir famille d'accueil au Québec. D'ailleurs, en ce moment, j'anime une série qui s'appelle « Être famille d'accueil » parce que j'avais envie, avec ce projet-là, de démystifier c'est quoi être famille d'accueil, c'est quoi les défis, mais c'est quoi aussi les beaux côtés, parce qu'il y en a. Il y a des gens qui sont famille d'accueil depuis 15 ans, 20 ans, bien, c'est parce qu'on s'accroche aux enfants qu'on arrive à aider, aux enfants qu'on arrive à sauver. Et j'espère qu'avec cette série-là, je vais pouvoir démontrer aux gens c'est quoi exactement être famille d'accueil pour des enfants de la DPJ, parce que c'est triste à dire, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'enfants actuellement au Québec qui ont besoin d'une famille d'accueil. Et si je peux, grâce à cette série-là, convaincre des familles d'ouvrir leurs portes, d'accueillir des enfants sous leur toit pour leur offrir de la sécurité puis ce dont ils ont besoin, ben tant mieux. Mais moi, je suis en tournage depuis le début de l'été et même si je le sais c'est quoi être en famille d'accueil, je l'ai été moi-même. J'ai appris beaucoup de choses, puis j'ai été très touchée, même bouleversée, non seulement par les parents de familles d'accueil, mais aussi parce que les enfants ont accepté de me parler, puis les adolescents ont accepté de me parler, c'était quoi pour eux être en famille d'accueil, puis je pense que vous allez être surpris de leurs réponses. Les enfants, ils ont besoin d'un port d'attache, de ça dont ils ont besoin. Puis quand ils trouvent un port d'attache, ils sont pas mal plus solides dans la vie, puis ils sont pas mal plus épanouis. Puis Je lance ça dans le ciel, tu sais, je suis pleine d'espoir. Tu sais, j'essaie de jamais perdre espoir. Puis quand on voit que les gens nous disent que le bateau est en train de couler, tout ça, c'est sûr que ça m'inquiète, mais j'espère qu'il y a des gens quelque part qui nous entendent, que ce soit des ministres, des décideurs, des gens qui vont décider d'agir chacun à leur façon pour aider la situation. Tu sais, je pense notamment à l'Union des municipalités du Québec qui, tranquillement, pas vite, essaie de mettre en place des programmes pour aider les jeunes de la DPJ en offrant notamment des emplois. Mais je trouve que ça, c'est un pas dans la bonne direction. Tu sais, la responsabilité par rapport à ces enfants-là, je pense que c'est pas juste une responsabilité de l'État. Je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. C'est la responsabilité des universités, par exemple, d'offrir des bourses d'études à des enfants qui ont passé leur vie dans le système et qui ont malheureusement pas d'argent ou de soutien pour pouvoir faire des études. On sait que l'éducation, c'est une porte de sortie importante pour ces jeunes-là.
Nancy, merci beaucoup. Et écoute, hésite pas, quand tu veux sonner des cloches à propos de la DPJ, fais-nous signe.
Merci, Patrick.
Salut.
Au revoir.
C'était Nancy Audet, animatrice, journaliste, conférencière, ex-enfant de la DPJ. Vous l'avez entendu, là, qu'il y avait, disons, des drapeaux rouges à lever sur ce qui se passe à la DPJ.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va commencer avec deux entrevues pour commencer l'émission parce que, bon, les cas d'infection continuent à augmenter. Ça provoque pas un tsunami dans les hôpitaux, là. Mais quand même, il y a des signes inquiétants. On va en parler immédiatement avec deux médecins. D'abord, Dr. Normand Blais, qui est hémato-oncologue au CHUM et aussi vice-président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Dr. Blais, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Dr. Blais, merci d'être avec nous. J'ai vu votre message sur Twitter où vous disiez que vous deviez reprendre des gardes COVID et délaisser vos patients qui ont le cancer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça?
À deux reprises, dans la pandémie, il y a eu des listes de garde qui ont été faites au CHUM puis dans d'autres hôpitaux du Québec pour mobiliser les médecins des hôpitaux qui n'étaient pas des internistes ou qui n'étaient pas des médecins spécialisés en infection pour couvrir le surplus de patients dans les hôpitaux atteints de COVID. Ça implique des cardiologues, des gastro-entérologues, des oncologues, des hémato-oncologues. Donc, plusieurs médecins qui ont d'autres tâches à faire que s'occuper de la COVID, qui doivent délaisser leur clientèle pour s'occuper des patients hospitalisés.
Donnez-nous, s'il vous plaît, Dr. Blais, là, un exemple de ce que ça signifie là, concrètement, humainement, ce que vous appelez délaisser la clientèle.
Bien, ça veut dire qu'à tour de rôle, on va être appelé pour laisser nos cliniques, laisser nos listes d'attente pour aller passer une semaine sur un étage de patients atteints de COVID. Donc, il y a un tour de rôle. Donc, la charge est répartie à travers différents médecins, mais ça n'en laisse pas moins que nous, on est déjà utilisés au maximum. Nos listes d'attente sont déjà remplies, puis encore plus que jamais avec le retard accumulé par la COVID, qu'on peut pas vraiment se permettre de passer des journées à l'extérieur de nos cliniques sans laisser de tomber ou laisser de côté nos patients qui sont en attente.
Quel type de mots est-ce que vos patients qui sont atteints de cancer ou qui soupçonnent d'avoir un cancer ne pourront pas voir être soignés pendant que vous êtes sur un étage COVID?
Bien, c'est plus une question d'attendre encore plus parce que dans les deux grosses phases hospitalières de la COVID qu'on a vécues, les patients ont attendu. On a vu des patients se présenter avec des maladies, des cancers, ça n'attend pas. Hein. Donc, on a vu des patients avec des cancers beaucoup plus avancés qui étaient trop malades pour pouvoir avoir des traitements. On sait c'est quoi l'impact que ça a apporté. Au cours des trois derniers mois, les choses s'amélioraient un peu. Mais au moment où on pense qu'on commence à voir de l'avant, Il y a cette réalité-là d'une autre vague hospitalière qui arrive. Ça, c'est quand même très décourageant.
Je vais vous poser la question que je vais poser à Dr. Joseph Daïn tantôt, qui est médecin intensiviste. Le gouvernement a annoncé là que si le 15 octobre, on travaille dans le milieu de la santé, privé ou public, et qu'on n'est pas doublement vacciné, ben c'est la suspension sans solde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous trouvez qu'il y a peut-être des effets imprévus à cette mesure-là qu'on voit pas?
Bien, il y a des effets imprévus, mais je suis d'accord pour la raison que moi, particulièrement, je travaille avec des gens à risque, immunosupprimés, qui n'ont pas la chance de d'autres personnes d'avoir une réponse adéquate au vaccin. La grande, grande majorité de mes patients sont vaccinés, ils veulent être protégés, mais compte tenu de leur maladie, de leur traitement, ils ne peuvent pas avoir la protection adéquate. Donc, c'est le rôle des médecins, c'est le rôle des infirmières, c'est le rôle des préposés, c'est le rôle de tous les personnels, de tout le personnel qui supporte ces patients-là, de leur offrir la protection maximale, à mon avis.
Docteur Blais, je vais vous lire, ma messagerie est ouverte, là. Il y a un message qui me parvient de quelqu'un qui écoute l'émission. Je vous préviens, c'est un peu carré, mais j'ai souvent entendu ce message-là depuis 18 mois, et j'aimerais ça que vous expliquiez, là, fassiez un peu de pédagogie en réponse, OK? Quelqu'un m'écrit, donc c'est moins grave laisser mourir les gens qui ont le cancer comparé aux gens qui ont la COVID. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Ben, on veut pas laisser mourir personne. Donc, moi, premièrement, si je suis appelé à couvrir un étage COVID, je vais le faire. Pas de gaieté de cœur parce que je laisse tomber mes patients avec cancer d'une certaine façon, comme je l'ai expliqué, mais on veut quand même soigner tout le monde. La réalité, c'est que plus les gens vont être vaccinés, plus les gens vont faire attention dans leurs expositions à l'extérieur, mais plus on va pouvoir éviter des situations d'hospitalisation. On sait que le vaccin est très, très, très bon pour éviter les hospitalisations puis les maladies sévères. Donc, c'est vraiment la meilleure façon pour décharger le système hospitalier puis qu'on soit capable de traiter tout le monde adéquatement.
Traduction, si tout le monde était vacciné, vous n'auriez pas à quitter votre unité de cancérologie.
Bien, je pense que ce qu'on voit aux États-Unis, dans des populations qui sont beaucoup moins vaccinées que nous, nous sert d'exemple qu'au Québec, on est quand même mieux qu'ailleurs, mais il y aurait moyen d'être encore beaucoup mieux.
Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne journée.
Bonne journée.
Salut, c'était Dr. Normand Blais, hémato-oncologue au CHUM. Je me tourne maintenant vers un autre médecin, Dr. Joseph Daïn, qui est médecin intensiviste à l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Dr. Daïn, salut.
Bonjour.
J'ai vu un autre, vous aussi, j'ai vu un message sur Twitter, Dr. Daïn, où vous faisiez état des statistiques d'hospitalisation en soins intensifs. Qu'est-ce qui vous inquiète quand vous regardez les soins, les taux d'hospitalisation là des derniers jours?
Bon, on n'a pas besoin d'être un bolet en mathématiques pour interpréter les chiffres. Ça monte, puis ça monte vite. Quand on regarde les patients hospitalisés aux soins intensifs, dans les 5 derniers jours seulement, il y a 19 patients de plus aux soins intensifs, ça c'est le chiffre net, et avec la capacité du Québec que nous donne le ministère de la Santé et des Services sociaux, ça représente 11%. Donc on est déjà rendu sur tous les soins intensifs possibles réservés pour la COVID, 40% sont occupés. Mais ce qui est encore plus intéressant et je pense significatif, c'est regarder les chiffres bruts en 5 jours. C'est 42 patients qui sont sortis aux soins intensifs, qui sont rentrés, pardon, aux soins intensifs. Il y en a qui sont sortis, c'est pour ça que c'est net juste 19,
oui.
Mais 42 sont rentrés. Ça veut dire qu'il y a 42 Québécois qui, en ce moment, se luttent pour leur survie dans une unité de soins intensifs du Québec, se battent contre la COVID.
OK, docteur, 40% d'occupation aux soins intensifs. Je vais essayer de voir le côté positif des choses, là, puis anticiper certains contre-arguments qu'on pourrait vous servir. Il y a toujours un espace de 60%. C'est quoi le problème?
Ben, c'est que cet espace-là, à la vitesse où les hospitalisations montent, va diminuer de plus en plus. Donc ça, c'est l'aspect numéro un, c'est-à-dire que ça sent le délestage à plein nez. C'est que oui, cette capacité-là demeure, mais je vous garantis qu'elle va être épuisée dans les prochaines semaines. C'est garanti, ça monte trop vite. C'est le même film que durant la première, deuxième et troisième vague. Ensuite, ben, les COVID luttent ou combattent, se disputent les mêmes ressources que les patients non-COVID. Donc, toutes les autres maladies, les conditions médicales, les conditions chirurgicales qui nécessitent également un lit aux soins intensifs. Donc, les deux groupes, COVID, non-COVID, se disputent les mêmes ressources limitées et ces ressources-là diminuent de plus en plus. Pourquoi? Parce que le personnel diminue de plus en plus. Il n'y a pas de deuxième, troisième ou quatrième trio envoyé sur la glace. Les mêmes médecins, infirmières, préposés, inhalos qui étaient là durant toutes les vagues précédentes. Sont de retour, encore une fois, sur les unités de soins intensifs, parfois pour certains d'entre eux, sans avoir pris de vacances encore, à soigner et les COVID et les non-COVID. Et c'est sûr qu'il n'y a pas la même réserve d'énergie qu'il y avait en mars 2020. Là.
Dans votre unité de soins intensifs à la Cité de la Santé à Laval, Dr Dayen, là, c'est quoi le profil type des gens? D'abord, tu sais, allons-y avec l'âge, puis après ça avec vaccinés ou non-vaccinés.
Donc, 5 patients aux soins intensifs à Cité de la Santé, 14 dans l'hôpital au grand complet. Une proportion où il y a, je dirais, plus de jeunes, donc entre 30 et 60 ans, exceptionnellement, là, quelques personnes très un petit peu plus âgées, là, 70 ans. Mais là, je vous dirais à peu près là, 80% des patients là, entre 30 et 60 ans. Et sur les 5 patients aux soins intensifs, aucun d'entre eux n'est complètement vacciné. Dans l'hôpital, je pense qu'il y en a 2 là, qui ont eu leurs 2 doses. Donc, de loin, la population qui se présente pour des soins hospitaliers à cause de la COVID, c'est des patients qui n'ont pas été vaccinés adéquatement.
Dès le 15 octobre, les employés du réseau de la santé qui ne seront pas doublement vaccinés, Dr Dayen, vont être suspendus sans solde. Est-ce que c'est une mesure qui est accueillie favorablement chez vous?
Oui, c'est sûr que la décision est courageuse parce que c'est une question sensible pour les raisons que l'on connaît. Mais la réalité, c'est que c'est une bonne décision pour 2 raisons. La première, c'est que le virus va trouver le moyen d'infecter les gens vulnérables. Qui est vulnérable, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, ces gens-là vont tomber en maladie à un moment donné parce qu'ils vont être infectés par la COVID. Et donc, ça va se traduire par une perte de personnel. Donc, s'ils quittent parce que là, on les oblige à être vaccinés, ben là, au moins, on le sait d'avance, alors que si on les laisse infecter, ben on va savoir le jour même qu'ils tombent malades. Donc ça, d'un point de vue logistique, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, même que ça nous permet de voir venir les absences. D'un point de vue plus déontologique, et le deuxième argument qui est super important pour moi, c'est sûr que si tu es dans le domaine et que la raison pour laquelle tu ne te fais pas vacciner, c'est parce que tu ne crois pas en la science, tu ne crois pas en l'expertise des autres, ben tu es en contradiction avec ce qu'on fait au quotidien. Moi, je suis intensiviste. Je vais m'occuper des patients en soins intensifs. Mais je les opère pas. Je suis pas chirurgien. Quand j'ai besoin que mes patients bougent, je suis pas physiothérapeute. Je fais confiance à l'expertise du physiothérapeute. Je suis pas immunologue. C'est pas moi qui fais les vaccins. Je fais confiance à l'expertise de ceux qui ont fait en sorte qu'on a un vaccin qui, à l'heure actuelle, a été administré à plus de 5 milliards de personnes, 5 milliards de doses administrées dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que quand on te demande à chaque jour de faire confiance aux expertises de des collègues, là, pour une science qui est prouvée, toi, tu sais la vérité, mais tu ne ferais pas confiance à ceux dont c'est la job de nous protéger. Donc, pour moi, il y a un conflit ici de valeurs professionnelles qui fait en sorte que pour être un modèle devant nos patients qui, eux, vont vouloir savoir si les gens qui les soignent sont adéquatement vaccinés dans le but de maintenir cette alliance thérapeutique-là, c'est le modèle, le rôle qu'on doit donner dans le réseau de la santé. Donc, pour moi, c'est conséquent à ce moment-là de prendre des mesures envers les gens qui refusent de se vacciner à l'heure actuelle.
Merci, Dr Dayen. Lâchez pas.
Ça fait grand plaisir. Merci.
Salut, bonne journée. Il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est quand même inquiétant qu'avec 75 personnes aux soins intensifs, on met en danger notre système de santé. Écoutez, et là, la personne poursuit en disant, avec le vieillissement de la population, il va y avoir une brisure de notre système de santé. Non, pas vraiment. Parce que, je veux dire, on est capable de prévoir combien de lits dont on va avoir besoin pour les CHSLD, par exemple. On est capable de prédire, il va y avoir combien d'infarctus dans une année. Donc, on peut, par exemple, prévoir, on a besoin de combien de ressources, de lits, de cardiologues, d'infirmières en cardiologie. On peut faire ça. Ce qui n'est pas prévu, c'est les malades qui sont aux soins intensifs, qui restent là à cause d'un virus, d'une pandémie. Ça, c'est un angle mort. Après ça, on peut se dire, hey, d'ici 20 ans, l'objectif, c'est d'avoir 3 fois plus de lits de soins intensifs. C'est vrai. Mais maintenant, avec notre capacité et les gens qui deviennent malades et qui ont besoin de soins, qui ont besoin de respirateurs, c'est une situation exceptionnelle. Après ça, le reste de l'hôpital, c'est une autre affaire, on se comprend. Et on peut pas se dire, ouais, mais le système dépend de 50 personnes de plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, c'est un peu décourageant et espérons, on va se croiser les doigts. Il y a de plus en plus de gens, je pense, qui vont aller se faire vacciner et on n'aura peut-être pas besoin d'arriver à la capacité. Parfait. La prof... profession enseignante. C'est une profession noble, c'est une profession extraordinairement importante dans notre société. Il y a des profs qui quittent le métier, il y a des profs qui reviennent. On va parler à quelqu'un que vous connaissez bien, Marie-Andrée Poulin, a été animatrice et chroniqueuse culturelle à TVA. On la voyait jusqu'à tout récemment dans les bulletins de nouvelles de TVA. Et là, ben voilà qu'elle fait un retour à ses premières amours, c'est-à-dire l'enseignement, elle est au bout du fil. Salut Marie-Andrée!
Bonjour.
Ben écoute, félicitations. On se demandait, on a décidé de faire un petit coucou, comme on dit, parce que on trouvait l'histoire sympathique. Qu'est-ce qui t'a poussé à retourner, non pas aux études, mais à l'école?
Ben, plein de choses. C'est sûr que, bon, pendant la pandémie, moi, j'avais deux journées de libre par semaine, le lundi et le mardi. Et m'est venue l'idée comme ça, voyant le milieu de l'enseignement, comme bien d'autres milieux aussi durement éprouvés, je suis allée voir la directrice et je lui ai dit, ben, si ça peut vous aider, ben j'ai deux journées que je pourrais vous offrir. Et tout de suite, elle m'a dit oui, on va faire faites des démarches avec la commission scolaire. Et de là, ben j'ai travaillé le lundi et le mardi de janvier à juin. Et avant, j'ai fait quelques journées de suppléance aussi. J'étais en soutien pédagogique, donc j'étais comme une deuxième enseignante dans les classes pour justement apporter de l'aide, que ce soit pour l'évaluation ou encore pour des activités ou des projets plus demandants, plus exigeants. Alors, ça a été un des déclencheurs, mais c'est sûr qu'après 10 ans à TVA, presque 20 ans dans les médias, avec les horaires atypiques qui viennent avec, ben, puis on est aussi un petit peu plus loin. Là, on a été souvent au centre-ville, mais maintenant on est sur la rive sud et on s'est dit, ben, j'ai comme envie de profiter du temps de qualité avec ma fille, avec mon chum. J'avais comme le feeling aussi d'avoir donné ce que j'avais à donner. Et puis, quand j'ai regoûté à l'enseignement, je me suis dit, waouh, ce milieu-là m'avait manqué sans que je m'en rende compte finalement.
Marie-Andrée, c'est paradoxal parce que j'ai parlé à beaucoup de profs au cours des dernières années. Puis évidemment, on s'entend, là, dépendamment des régions, dépendamment des niveaux, des conseils, des commissions scolaires, là, tout diffère. Mais il y a beaucoup de profs qui trouvent que la charge de travail est immense et que c'est épuisant. Toi, tu trouves que c'est plus relaxant d'être prof qu'être journaliste culturel?
Ben, je dirais peut-être pas plus relaxant parce que les difficultés sont là, le manque de ressources est là. Je l'ai vu, là, je vois à quel point les profs, c'est une vocation, on l'entend souvent, mais c'est vrai, les profs sont tellement impliqués, se donnent là, littéralement aux enfants, à leur profession, à leur métier. C'est exigeant, mais il y a un côté positif aussi à ça. T'sais, moi, j'ai eu l'impression pendant la pandémie ben, de faire bien humblement ma part dans la société, d'apporter de l'aide. C'est sûr que cette année, moi, je voulais pas avoir, dès le départ, ma classe à moi à temps plein. Je voulais me donner le temps de faire ma transition aussi. Le but, c'est pas que dans 2 semaines, je me dis, ben non, je suis complètement épuisée parce que c'est un métier, oui, qui est très, très, très exigeant.
Qu'est-ce que t'aimes quand t'es devant la classe, là, puis tu enseignes? Qu'est-ce qui te branche là-dedans?
Ah, moi, c'est de voir les élèves qui écoutent attentivement ce que je dis. C'est drôle parce qu'hier, j'étais en suppléance dans une classe de première année et je lisais une histoire. Et là, je voyais les petits yeux, là, attentif, puis tu sais, je modulais ma voix. Ah, ça, là, d'avoir ce contact-là avec les enfants, il y a beaucoup de points qui rejoignent ceux de la communication, ceux de notre métier. Alors, moi, c'est ça. Puis aussi de voir les enfants quand j'arrive. Madame Marie-Andrée, est-ce que vous venez travailler avec moi aujourd'hui? Ah, ça me fait tellement chaud au cœur.
Si tu étais titulaire d'une classe, ce serait à quel niveau dans tes meilleurs rêves?
Ben moi, j'ai été titulaire en 6e année et j'aime les deux extrêmes. J'aime beaucoup maternelle et 6e année. Les grands et les tout petits. Mais je trouve que chaque degré a ses charmes, a ses difficultés aussi. C'est une question difficile à dire, mais je dirais maternelle 6e.
OK. Il y a une chroniqueuse culturelle actuelle qui a pas fait de retour aux études, qui a une question pour toi.
Ben Marie-Andrée, écoute, on s'est croisés tellement souvent au cours de nos carrières dans les médias. Moi, je me demande, est-ce que ça va te manquer d'être loin des feux de la rampe?
Ben par moment, c'est sûr que oui. Puis tu sais, déjà, j'y pensais, je me disais, hey, c'est ma première rentrée. C'est la première rentrée où je ne suis pas là, où je suis pas là pour parler des nouvelles émissions. Il y a quelque chose de tellement euphorisant là-dedans. Mais bon, en même temps, je faisais ma rentrée scolaire, puis je profite de la rentrée de ma fille aussi. J'étais là le matin, j'étais là le soir. Au lieu de revenir à 7 heures le soir, ben j'ai pu profiter. Mais tu sais, Catherine, on rencontre On fait tellement de belles rencontres dans ce métier-là. Puis je me dis aujourd'hui, je suis reconnaissante, privilégiée d'avoir pu le faire pendant toutes ces années, d'avoir rencontré non seulement des artistes émergents, mais des grandes vedettes, des légendes, des artistes internationaux. C'est tout ce bagage-là, je le garde avec moi.
Mais tu vas me manquer, moi, parce que souvent, je te voyais à l'écran pendant notre émission de radio. Ah ouais? Puis je disais, ah, c'est Marie-André, alors ça va me manquer.
Ah ben ça va me manquer aussi de te croiser, Catherine, comme tous les autres, les attachés presse aussi avec qui on travaille, avec qui on arrive à organiser des entrevues, des couvertures d'événements. C'est sûr que tous ces gens-là ont fait partie de mon quotidien pendant de nombreuses années. Je me suis dit, bon, on va garder le lien d'une autre façon.
Ben bonne chance, Marie-André, puis je te dis merci aussi. C'est important qu'on ait de bons profs beaucoup dans nos écoles. Merci, bonne chance.
Merci.
Salut, c'était Marie-André Poulain, ex-chroniqueuse culturelle à TVA. On l'a vu pendant 10 ans, Catherine a fait le choix de retourner dans les classes, ses premières amours. Elle est maintenant prof suppléante au primaire, puis peut-être qu'elle va devenir titulaire. C'est une histoire sympathique, je trouve.
Absolument, puis je comprends ses raisons.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
17h38, la pandémie a bouleversé beaucoup de choses dans nos modes de vie et aussi dans le travail. Depuis un an et demi, il y a de plus en plus de gens qui vivent ce qu'on appelle des Zooms. Zoom, c'est les visioconférences. Évidemment, il y a toutes sortes de plateformes, mais Zoom, c'est comme Frigidaire. C'est devenu, disons, la façon dont on définit ces visioconférences. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, ça sauve du temps. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça parce que ça peut être épuisant. Et il y a une entreprise là en Estrie qui a décidé de prôner des journées sans conférences. On va parler de tout ça avec Isabelle Rouleau. Elle est neuropsychologue et professeure au département de psychologie de l'UQAM. Professeur Rouleau, bonjour.
Bonjour.
Le Zoom, là, la fatigue Zoom, le fait qu'on soit tanné de faire des conférences là-dessus, est-ce que c'est une réalité ou c'est juste dans notre tête?
Ben, je pense que c'est une réalité pour une certaine quantité de personnes. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui adorent ça, de ne pas avoir à se déplacer, mais pour beaucoup de gens, là, c'est extrêmement épuisant. Et surtout s'il y en a plusieurs, on sait que c'est lié à la fréquence et à la durée hein, dans une journée. Si vous en faites un de temps en temps, il n'y a pas de problème.
Si on en fait toute la journée?
Ben oui, il y a des gens qui sautent d'un Zoom à l'autre. J'ai des collègues, moi, qui font un Zoom après l'autre toute la journée, puis ils ont même pas les périodes de repos qu'on a généralement, parce que les réunions, en général, on se déplace d'une réunion à l'autre, mais eux, ils se déplacent pas, ils sont toujours sur le même siège, devant le même ordinateur.
Vous êtes une spécialiste du cerveau, j'ai envie de vous demander, est-ce que le cerveau est fait pour passer plusieurs heures devant un écran à interagir en visio avec d'autres mondes?
Non. Le cerveau, il aime pas ça. Le cerveau, il aime la variété, il aime le déplacement, il aime, justement, il aime ma communication hein, avec les autres. Mmh. C'est plutôt sympathique de communiquer avec l'ensemble des indices, à la fois verbaux, mais aussi non-verbaux. Puis les indices non-verbaux, par Zoom, c'est problématique parce qu'on a juste le visage. On n'a pas les mains, on n'a pas les jambes, et on n'est pas dans le même environnement que la personne qu'on regarde. Donc, s'il y a un enfant qui arrive dans la pièce, puis la personne se retourne, on ne sait pas, nous, qu'est-ce qui arrive. On est toujours en train de décoder qu'est-ce que la personne est en train de faire, alors qu'on n'a pas les informations pour le décoder de façon correcte. Et c'est épuisant.
Je lisais, Isabelle Rouleau, là, sur Radio-Canada, vous avez fait des commentaires là-dessus à propos de cette entreprise qui a décidé de réduire un peu les Zooms. Vous avez dit, à propos de l'environnement de travail, d'être en présentiel des fois, là, vous avez dit, écoutez, les conversations de machine à café sont importantes.
Ouais,
En quoi c'est important, ces petites interactions-là?
En fait, c'est que quand on parle à quelqu'un, on structure notre pensée, on raconte des choses, ça dépend des conversations qu'on a, mais on peut argumenter un truc, on reçoit des arguments, on est obligé de structurer notre pensée, et quand on structure notre pensée, on mémorise mieux ce dont on parle. parce qu'on le structure. Et l'autre personne en face de nous nous donne des nouveaux arguments, etc. Donc, ces conversations anodines de machine à café sur le dernier livre qu'on a lu ou le dernier film qu'on a vu, on les a pas par Zoom. Par Zoom, les conversations qu'on a, c'est toujours relié au travail, relié à l'objet de notre rencontre.
Qu'est-ce que vous diriez à des spécialistes de ressources humaines, à des patrons qui vous répondraient « Oui, mais là, ces petits moments-là, là, la machine à café, le moment où les employés vont dîner puis ils reviennent 15 minutes trop tard, c'est un manque de productivité. » Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben, je leur dirais de communiquer avec leurs amis, collègues de l'Estrie qui ont observé une augmentation de la productivité quand ils ont demandé aux gens de fermer leur ordinateur. C'est le contraire. C'est essentiel. Et c'est ça qui fait que les gens deviennent attentifs lorsqu'ils font leur travail et qu'ils décrochent lorsqu'ils le font pas.
OK. Il y a beaucoup de gens là pour le monde d'après, quand on va sortir de la pandémie, ou en tout cas quand elle va être disons, davantage sous contrôle, qui se disent « Bon, écoute, c'est un peu beaucoup la fin du travail en présentiel, au bureau. » Vous, si je comprends bien, vous trouvez que c'est pas une super bonne idée. Là. On devrait garder une certaine présence. Vrai.
Ah, pas une présence certaine, oui. Oui, c'est fondamental. Ben, je l'ai vu, on vient de rentrer à l'UQAM en présentiel. Cette semaine, c'est fantastique. C'est le bonheur. Je pense que les gens en avaient besoin. Toute la créativité, tous les échanges, c'est fondamental. Donc, oui, je comprends qu'on n'aime pas être pris dans le trafic. Là, je peux comprendre que les gens vont vouloir réduire leur temps là, en présentiel, mais je veux dire, ça a un coût.
Est-ce qu'on sait, pour ce qui est des visioconférences, là, est-ce qu'on sait ça devrait être quoi le maximum de temps d'écran dans une journée pour les gens qui font du télétravail?
Oh mon Dieu, j'ai aucune idée, mais il y a sûrement des chercheurs qui vont répondre à votre question. Un petit PubMed devrait répondre à notre question. L'étude de Stanford, dont je vous parle, l'étude de Stanford a essayé de fixer un peu des balises, tout ça. C'est intéressant, mais je pense qu'il faut encore certaines études. Puis aussi, c'est que c'est hétérogène. L'être humain et son voisin sont pas pareils. Alors, il y a des gens, je pense, qui supportent très bien ça, puis d'autres moins. Mais, il va falloir que les gens s'adaptent.
C'est intéressant ce que vous dites quand vous dites on a besoin de plus d'études. Est-ce qu'on sait s'il y a des études en cours? Parce que, je veux dire, on faisait du Zoom avant. Ça existait avant la pandémie, là, cette plateforme-là. Il y avait du télétravail, mais jamais comme aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des études qui sont en cours pour mesurer l'effet sur nos cerveaux?
En tout cas, à l'université de Stanford, ils y travaillent beaucoup. Si vous pourrez mettre le lien, je vais vous l'envoyer. Ils ont un questionnaire pour que les gens évaluent leur fatigue Zoom. Et j'ai plusieurs collègues qui l'ont fait et ont dit, oups, il est temps que je change mon comportement.
Vous, comment vous enseignez? Est-ce que vous avez enseigné par Zoom?
Ben oui. T'as des petits carrés. Et j'étais très contente hier d'avoir des vraies personnes dans ma classe, malgré, bon, on a des masques et tout ça, là, c'est un peu plate, là, mais je préfère. Ça a été vraiment le fun parce qu'il y a eu beaucoup plus de contacts. C'était tout le contact avec les collègues. Oui, on est en personne, nous.
Qu'est-ce qui vous a frappé comme ayant été perdu dans l'expérience prof-étudiant en télé-études?
Ben les petites conversations, les petites, tu sais, parce que en Zoom t'es toujours en train de faire des choses importantes, tu sais, c'est toujours comme fondamental, puis une fois que c'est fini, c'est tu quittes. Alors que quand t'as des relations réelles avec des vraies personnes, ben là tu discutes de plein d'autres choses qui sont en recherche, les choses qui donnent des idées et qui permet justement d'avoir des nouveaux projets, et c'est ça qui est fondamental pour l'université.
L'étude de Stanford, là, dont vous parlez, est fascinante parce que on dit que le fait de se voir soi-même dans l'écran, c'est un facteur, non pas de stress, mais disons, qui nous taxe mentalement.
Ben, de stress. T'sais, toute la journée, tu dis, ah, mes cheveux, il me semble, sont pas corrects. T'arrêtes pas de te critiquer, puis on dit que les gens sont extrêmement, ils ont beaucoup, beaucoup d'autocritique. Alors, le fait de, c'est comme si quelqu'un te suivait toute la journée avec un miroir, tu sais.
Ben, savez-vous quoi? Moi, on a déjà parlé ici à des gens qui ont des cliniques de soins esthétiques, de chirurgie plastique. Et il semble-t-il qu'ils ont une nouvelle clientèle de gens qui sont tannés de se voir en Zoom parce que là, ils voient tout ce qu'ils considèrent être des défauts dans leur face.
Ben, justement. Alors, cette autocritique-là est quand même pas superbe pour le moral. Non, je pense qu'il faut revenir le plus possible à notre bonne vieille vie avec des vraies relations et puis où on se voyait pas toute la journée puis où on pouvait échanger de façon tout à fait correcte et où on n'avait pas, où on avait un peu d'espace puis où on se déplaçait, où on changeait d'environnement. C'était fondamental.
En quoi ça peut être stressant de constamment se voir? Parce que quand l'écran est ouvert, qu'on voit les autres, généralement on se voit aussi. En quoi ça peut être stressant?
Bien, c'est le fait que pour les de se voir soi, ben on d'abord c'est distrayant. Hein, c'est distrayant se voir. En général, moi quand je donne un cours, je me vois pas. Et de voir les autres, c'est aussi très distrayant parce que tout d'un coup, je suis en train de parler de quelque chose, il y a quelqu'un qui lève les yeux, mais je dis bon, il m'intéresse ce que je dis, mais il l'intéresse pas, etc. Donc, je suis toujours en train d'interpréter des choses chez les autres qui sont pas nécessairement en harmonie avec la situation. Toujours en train de me poser des questions sur le niveau d'intérêt, le niveau de motivation, est-ce qu'il m'écoute, est-ce que je suis plate, etc. Alors que en présentiel, t'as pas du tout ce problème-là parce que tu regardes, t'as beaucoup plus d'indices. Puis là, s'il y a un étudiant qui a l'air un peu distrait, tu t'en vas, tu te promènes, puis tu t'en vas à côté. Mais tu peux pas faire ça par Zoom.
Vraiment intéressant. Quelle époque. Merci de nous avoir parlé ce soir, Isabelle Rouleau.
Ben, ça m'a fait bien plaisir.
Salut, à la prochaine.
Au revoir.
Isabelle Rouleau est neuropsychologue et professeure au département de psychologie de l'UQAM. Rebondissait là sur cette décision d'une entreprise de l'Estrie. On a décidé là-bas de limiter les heures de Zoom, d'avoir, parce qu'on est en télétravail, évidemment, on a décidé de slacker un peu la poulie, comme on dit. Parce que ça peut être dérangeant. Vous autres, Catherine et MC, vous êtes aussi en télétravail, là. Ici, vous l'êtes, mais l'expérience Zoom, les meetings de Zoom, comment vous avez trouvé ça?
Ben, j'ai l'heureuse balance dans ma vie, c'est-à-dire que je suis à la station à tous les jours. Donc, pour moi, faire un Zoom, c'est pas très demandant si on fait la comparaison avec ce que la dame expliquait. Par contre, moi, ça accélère, en fait, ça aide beaucoup ma vie parce que avant, quand on fait une rencontre de presse, il fallait, par exemple, se déplacer à Radio-Canada. Là, il y avait des présentations. Il fallait attendre que tout le monde ait fini. On posait nos questions en même temps. Tout ça, là, maintenant, se fait en 35 minutes. Moi, ça me
sert. Plutôt qu'une heure et demie.
Oui, ça me sert énormément.
Mais il y a plein d'interactions que auxquelles tu n'as plus accès, tu sais, rencontrer des collègues. Il y a toutes sortes d'infos que tu apprenais.
Ça me manque, les blagues entre collègues.
Perdre du temps. Tu sais, je veux dire juste. Non, mais
perdre du temps, ça peut être un. Regarde, je veux dire quelque chose de gros, MC.
Vous me connaissez un peu, là, mais je fais des blagues dans le corridor et tout ça. Si on n'a plus ça, je ne peux pas ouvrir Zoom le matin. Vous dites, hey, j'ai une joke pour vous autres, gang. Mais là, ça n'a aucun rapport.
Non, mais perdre du temps, moi, je pense que ça peut aider la productivité.
Ben oui, c'est important. Et puis les autres effets pervers dont tout le monde m'a parlé. Un, le secret professionnel, tout le monde vous dit ça. Les gens en couple sont 3-4, là, ils discutent de ce sujet. Ben, vous êtes au courant, la personne est dans le salon, elle est au courant. La deuxième chose, vous avez des enfants, là. Dites à vos enfants, il faudrait quitter les écrans, là. C'est pas vrai que ça va passer la journée là-dessus. Papa puis maman, là, chacun sur leur écran, et dessus de 8h30. On peut pas, comme on dit souvent, on peut pas dire à un jeune, arrête de sacrer mon petit tabac! Tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire quelque chose et faire son contraire.
Mais ce qui est vraiment le fun aussi avec Zoom, puis ça, j'avoue que c'est pas dans toutes les rencontres qu'on peut faire ça, mais moi, j'ai fait beaucoup de rencontres Zoom en pyjama, pas maquillée, avec mon écran fermé. C'est ça, là. Mais je sais que ça peut pas être comme ça partout.
Et qu'est-ce qui confirmait que c'était Catherine et que ce n'était pas quelqu'un d'autre qui a écrit
Catherine? Ouais, mais on ne demande pas des cartes d'identité. Je pense qu'à la limite, ils peuvent entendre notre voix, mais moi, c'est surtout pour obtenir de l'information. Donc, des fois, j'ai pas toujours à interagir avec les gens. Fait que moi, ça, j'adorais ça, mais je sais qu'au bureau, tu sais, on essaie de privilégier de voir les gens, les collègues.
C'est une époque qui est surprenante, hein. Il y a quelques années, là, quand j'ai monté Deux Hommes en Or, le projet, les rencontres, le nombre de rencontres qu'on a fait autour d'une table pour préparer des trucs, là, avec les années 20, nouveau projet Télé-Québec, tout, absolument tout s'est fait en visioconférence, sauf une fois on s'est rencontrés dans un parc. Il y a eu des meetings en petit comité, il y en a, là, mais toute l'équipe, on a fait le pilote, tous ensemble. Sinon, tout ça, c'est juste de la visio.
Tu vas faire le saut à soir quand tu vas tourner ça. Marie-France, vous t'arrêtez, t'as donc bien grandi.
Je vais me demander.
C'est ce soir
qu'on enregistre. C'est ce monde-là, c'est ce soir qu'on enregistre la première.
Mais tu vois, dans Deux Hommes en Or, vous aviez votre rencontre de production qui était tournée autour d'une table au départ. Mais je trouve que ça vous sert bien d'être en Zoom.
Oui, puis on perd pas mal moins de temps à niaiser.
Oui, mais c'est important de niaiser. Sans faire, si on niaisait pas en dehors des ondes, on serait pas sympathique en ondes.
Oui, c'est bien dit.
Parce que les gens comprennent pas. Nous, avant d'ouvrir le micro, on se donne la puis là, quand on arrive, on fait semblant qu'on s'aime. Ben non, c'est
très,
pas vrai.
Très, 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 très semblant.
Godbois. Godville.
Oh, quel bel indicatif. Wow. Joli. Bon. Luc Ferrandez, MC Gilles, vous allez vous pogner aux cheveux. MC, t'as été piqué au vif par quelque chose que Luc a dit la semaine passée.
Non, mais c'est parce que la semaine dernière, est-ce que j'ai bien compris, Luc, quand t'as dit que, tu sais, le Mont-Tremblant, c'est un modèle, puis tu sais, en Europe, les gens s'agglutinent les uns collés sur les autres pour admirer le même paysage, alors que mon but, moi, pour être en région, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un à un kilomètre à la ronde de moi, d'avoir de l'espace. On parlait d'occuper le territoire, d'avoir un champ, de voir de l'horizon. Soit dit en passant, c'est prouvé scientifiquement que voir de l'horizon est bon pour le psyché. C'est très bon pour la santé mentale. À Montréal, vous ne voyez jamais d'horizon. À preuve, avez-vous vu le Vieux-Port, vous autres? Vous voyez des trains puis de la patente à gauche. On n'a pas d'accès au fleuve. Que c'est ça. Fait que là, tu me dis, mon espèce de Luc Ferrandez, que pour sauver la planète et pour le bien de l'environnement, il faudrait qu'on fasse comme en ville, qu'on occupe des 5,5, des 3,5, tous les uns collés sur les autres, et que le Mont-Tremblant serait un modèle.
Ben oui, c'est en plein ça.
Es-tu tombé sur la tête?
Ben non, ben regarde.
Attends, qu'est-ce que tu veux dire, Luc, quand tu dis que le Mont-Tremblant serait un modèle?
Ben écoute, il y a combien d'habitations sur le Mont-Tremblant? Là? Je ne sais pas, il doit en avoir... mettons, on va dire qu'il y en a 3,000, OK? Je ne connais pas les chiffres. On va dire 3 à 5,000, bon.
Ouais.
Si ces 3 à 5,000-là étaient tous répartis dans des chalets avec chacun un terrain de 3000 pieds carrés. On va dire, mais non, en campagne, c'est plus comme 15 000 pieds carrés. Ben, il n'y en aurait plus de Mont-Tremblant. Parce qu'il serait couvert de chalets. La beauté du lac, puis de la montagne, puis des terrains, puis des forêts qui l'entourent.
Oui, mais il y a Saint-Jovite pareil à côté.
Oui, je sais, mais prends tout ce monde-là, là, puis les répartis-les sur le territoire. T'as plus de territoire public.
Mais qu'est-ce que ça donne de quitter la ville pour aller à la campagne si c'est pareil comme la ville, mais à la campagne?
Ben non, parce que, regarde, bon, écoute, le Mont-Tremblant, je le donnais comme exemple pour frapper l'esprit, l'imagination.
Là, oui, c'est le Walt Disney World.
Oui, c'est ça, mais prenons un vrai village authentique des Alpes. Là,
non, lâche-moi les Alpes à matin. Là.
Les Alpes italiennes, mettons.
Non, les gens qui nous écoutent, les Alpes, ils s'encontrent ça. On va parler de ce qui se passe ici.
OK, là. D'accord. Prenons...
Saint-Alexis-des-Monts.
Bon, prenons Saint-Alexis-des-Monts.
Ben, ouais.
Saint-Alexis-des-Monts, si tu prends tout... Ben, c'est petit, Saint-Alexis-des-Monts. En tout cas, si tu prends toute la population de Saint-Alexis-des-Monts et tu la répartis, il va se passer que, d'abord, tu vas occuper beaucoup de territoire. Tu sais, dans la fameuse déclaration sur la sixième extinction, c'est ça. Là, c'est que le territoire, on est de plus en plus obligé de manger un bout de forêt pour s'installer. Ici, c'est encore pas trop pire parce qu'on est plus nombreux et que la forêt est grande. Mm-hmm. Mais dans le reste du monde...
Mais dans le reste de la place, là, qu'on a 1 million de lacs au Québec, là.
Oui, oui. Il reste de la place. Je suis pas sûr qu'ils sont tous occupés puis occupables. Puis la question, c'est aussi, à partir du moment où tout le monde s'installe sur le bord d'un lac, mettons qu'ils s'installent à 3 heures de Montréal sur le bord d'un lac, ils font leur commission où?
Ben, regarde, exemple concret. Moi, j'habite en région. L'important, c'est pas où tu habites. C'est que tu travailles à proximité d'où tu habites et que tu consommes à proximité d'où tu habites.
Oui, mais ça...
C'est... Donc, écoute, moi, il y a un champ au bout de ma rue... Ben, c'est un rang, là. Au bout du rang, puis ils font du blé d'Inde. Dans le temps du blé d'Inde, j'achète du blé d'Inde. De ce temps-là, c'est des fraises, j'achète des fraises.
Mais là, MC, on n'aura pas de débat parce que je suis d'accord avec toi.
Non, mais attends, je suis obligé aussi de faire venir des affaires, là, parce qu'on s'entend qu'au mois de février, pas de kiwi.
Le problème entre la ville puis la campagne, là, c'est pas un vrai problème, là. C'est-à-dire que tu peux très bien... Si en ville, les gens vont avoir un appartement de 700 pieds carrés à 1200 pieds carrés en moyenne, il y en a qui ont 1500 pieds carrés. Mais mettons, 700 à 1200, OK, en moyenne. Mais si tu habites à la campagne puis tu décides d'occuper 800 pieds carrés parce que tu es tout seul, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de voiture parce que 65% des gens qui habitent en ville dans les quartiers centraux n'en ont pas.
Ça arrivera pas.
Que, non, mais attends, parce que là, ça pourrait être un modèle écologique, ça. Tu sais, ça en est un modèle écologique où les gens disent, mais moi, là, regarde, je vais faire pousser mes vraies affaires, je vais tricoter mes bobettes, je vais faire mes propres Mr. Freeze, je vais tout faire moi-même. Mais oui, cette personne-là va être plus écologique que la personne qui habite en ville. Oui. Mais pour l'instant, la personne qui habite en ville, là, c'est... Dans mon quartier, seulement 35% des gens ont une voiture. Puis, les gens qui ont une voiture s'en servent très peu pour leur déplacement, pour aller à l'épicerie ou pour aller au CLSI ou pour aller voir des amis. Ils utilisent le pied. Si tu peux faire ça en campagne, ben vive la campagne. Moi, je veux vivre dans une campagne comme ça. Moi, je trouve que l'abandon des villages, c'est triste parce que c'est justement une vie, un peu de vie de urbaine, une vie de collectivité, de rencontre, de communauté. Avec un champ au bout.
Mais
Luc, ça, j'aime ça, moi.
Ce que tu dis, si je te comprends, si je te décode bien, c'est qu'habiter en campagne, même si le mode de vie est peut-être plus bucolique, proche de la terre, c'est pas bon pour la terre.
Il y a rien de plus mauvais. Un jour, on a demandé au responsable de l'EPA aux États-Unis, dont le ministère de l'Environnement américain, quelle est la pire catastrophe qui pourrait arriver pour l'humanité? Puis il avait dit, c'est si un milliard de Chinois avaient les moyens de s'acheter une mobylette. Ça, c'est la pire affaire qui pourrait arriver à l'humanité. Parce que le problème, c'est si on a tous... si t'habites à la campagne, t'occupes du territoire. Si t'habites loin des endroits où tu fais tes courses, tes commissions, puis tu t'achètes pas le maïs de ton voisin puis la viande de ton voisin, mais ça, ça existe puis c'est parfait, ben, tu vas être obligé de t'acheter une auto pour y aller. Puis si t'as un mode de vie urbain à la campagne, ben, tu vas tout le temps dans ton auto parce que tu vas ton auto pour aller à l'arène, ton auto pour aller faire des commissions, ton auto pour aller rencontrer des amis, ton auto pour amener ton bateau sur le bord du lac. Ben, là, c'est le pire du pire du pire.
Oui, mais t'as une mauvaise vision des gens de la campagne parce que quand t'habites dans un village, dans ton village, t'as un dépanneur, t'as une épicerie. Tu parles d'aller au hockey, il y a l'aréna. Tu peux vivre localement. Et ouais. Tu parles... Oui, on va parler de la fin de l'humanité, justement. Là, on aime ça, parler de ça, toi et moi. Hein, ouais. Vers où on s'en va? Écoute, là, selon les statistiques, plus que la moitié de l'humanité, donc des êtres humains, vivent maintenant en ville. Mm-hmm. Ils sont devenus urbains. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire. Avant, on occupait le territoire, on était un peu partout. Je pense que ce n'est pas nécessairement une si bonne chose que ça pour l'environnement, qu'on s'entasse tous les uns les autres. C'est pas vrai que tu habites dans Rosemont, puis parce que tu n'as pas d'auto, puis que tu prends le métro tous les jours, que tu es une moins grande empreinte de carbone pour moi que si tu habites justement à Alexis-des-Monts, puis tu travailles à Alexis-des-Monts, Saint-Alexis-des-Monts, puis que tu vas au dépanneur à pied, puis que oui, tu prends ton char pour aller faire l'épicerie comme la personne de Montréal va louer un commun auto.
Oui, mais MC, sans doute, c'est vrai, parce que si tu habites à Saint-Alexis-des-Monts puis tu travailles à Saint-Alexis-des-Monts, oui, mais qui fait ça? Il y a toi puis qui? Parce que
même pas moi,
parce que la plupart des gens, il y a un phénomène dans les villes et les régions du Québec, c'est que les gens n'habitent plus les villages. Les gens, ils veulent habiter le lac, ils veulent habiter le bord du fleuve. Fait que il y a des gens qui travaillent à la commission scolaire dans le village, ils habitent à 35 km du village. Pourquoi il n'y a pas de congestion?
Le drame du dernier siècle, c'est qu'on a quitté nos campagnes pour s'être installés en ville. Là, t'as vu une explosion de la pauvreté, t'as vu une explosion d'être entassés les uns sur les autres, et là, on a eu des problèmes.
Ben, okay, mais oui.
À l'époque, tu parlais ce matin, et t'as raison, la belle époque du temps d'une paix et tout ça, que c'était
merveilleux. Non, c'est pas le temps d'une paix, c'est quelle famille? Hey, ça, c'est pour me niaiser qu'ils ont mis le temps d'une paix. Okay. J'ai jamais dit qu'il fallait revenir au temps d'une paix, j'ai dit qu'il fallait revenir à quelle famille?
À mon avis, mon grand-père, malgré qu'il avait 13 enfants et malgré qu'il habitait dans son rang, puis qu'il avait ses vaches, puis ses cochons, puis qu'il se déplaçait pas beaucoup, non, parce que sa communauté était à proximité, puis qu'il voyageait pas non plus, parce qu'il y avait un peu d'argent pour voyager, puis c'était la famille la priorité. Je suis assez d'accord que c'était mieux dans ce temps-là. Mais le jour où ses enfants sont déménagés ici, puis en banlieue, se sont construits des mini-châteaux à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Mirabel, puis là, on a vu l'explosion des banlieues et l'étalement urbain, c'est l'étalement urbain qui est une catastrophe.
Mais absolument.
C'est pas du tout les gens de la campagne. Les gens de la campagne font très bien leur travail pour la planète.
Pour moi, l'autre bord de la métropolitaine, c'est la campagne. Là, je veux dire.
Luc, attends. Onsic, c'est la campagne.
Mascouche, c'est la campagne.
Mascouche, c'est la campagne. Mais attends.
C'est la banlieue maintenant.
Attends. Une ville, là, une ville, pour moi, puis sûrement dans des urbanistes, en règle générale, c'est ça, là, c'est des gens qui habitent dans des appartements avec une grande densité, avec une rue commerciale à côté où ils peuvent faire leurs achats, avec des transports en commun qui peuvent les amener vers le centre-ville. Ça, c'est une ville. Si tu habites dans un quartier où il n'y a pas de rue commerciale, où le moindre achat que tu dois faire, tu dois prendre ta voiture, tu n'habites pas dans une ville, tu habites dans une banlieue. Puis des banlieues, tu as raison de dire que c'est bien pire que la campagne.
Mais oui.
Oui, ça, t'as raison. Mais c'est pas de ça que je parle. Moi, là, si il y a un mode de vie urbain, c'est possible. À Rimouski, c'est possible. À Granby, c'est possible. À Saint-Félicien. Moi, j'aimerais ça habiter à Saint-Félicien. Je trouve ça super. Mais malheureusement, il y a plein de villages, je les nommerai pas par gentillesse. Mais j'ai dû traverser, il reste plus rien. C'est des villages qui avaient une certaine importance.
Pourquoi?
Là.
Parce que les gens sont partis en ville.
Non. C'est parce que les gens se sont mis à consommer. Les gens ont une maison, OK? Regarde comment ça fonctionne, parce que ce modèle-là que je vais décrire, ça sort pas de ma tête, là, ça sort des études sur le transport en commun.
Ouais.
Si tu as une maison qui est située à plus de 750 mètres de ta destination, tu vas aller faire une commission. La commission que tu vas faire est à plus de 750 mètres. Tu vas prendre ta voiture. Une fois que tu as pris ta voiture, tu vas pas te garer à l'entrée du village, marcher dans le village, chercher de la boulangerie dans le village. Tu vas prendre ta voiture pour aller te garer dans une épicerie avec un stationnement devant où tu vas pouvoir trouver l'essentiel de ce que tu veux.
Mais puis,
pendant ce temps-là, le village, lui, il meurt. Parce qu'on a construit cette épicerie-là en dehors du village. Le village, ça meurt.
Luc, c'est moins pire à Saint-Félicien de prendre son auto puis d'aller au marché de Saint-Félicien que de travailler au centre-ville de Montréal et de rentrer tous les soirs à Mirabel ou à Saint-Luc sur Richelieu en char.
Et qu'en fin de semaine,
on va au Costco. Puis qu'est-ce que tu penses que les gens font? Où tu vas magasiner? On va aller magasiner pas local. Personne fait ça. Tout le monde va aller au 10-30. puis au futur Rock Rose Bin Center au centre.
OK, je
en ville, vous polluez beaucoup plus que nous. Non, mais toi,
tu parles de... Attends, Patrick,
je veux te mettre quelque chose.
Oui.
Disons qu'on trouvait un carburant là qui était vert, OK?
Oui.
Bon, t'as les autos électriques. Au Québec, c'est vraiment vert parce que notre électricité est pas aussi polluante que quand tu produis ça, par exemple, avec des centrales au charbon. Mm-hmm. Disons qu'on trouvait la façon de faire rouler des chars sans polluer. Là, est-ce qu'on serait sorti du bois, sans mauvais jeu de mots?
Malheureusement pas, parce que il faut encore la construire, cette voiture-là. Quand tu construis une voiture, là, pour chaque kilo de construction de la voiture, il y a 70 kilos de perte. Parce que tu sais, quand tu fais du fer, par exemple, tu as un minerai de fer, ben il y a énormément de rejets. Quand tu fais des semi-conducteurs ou de l'électronique, il y a énormément de rejets pour chaque kilo de semi-conducteurs que tu vas faire, de cadmium, par exemple, que tu vas produire. Mm. Fait que pour un véhicule qui pèse 3 tonnes, il faut que tu calcules que c'est 210 tonnes de matériaux que ça a pris pour le construire. Fait que ça, on peut pas le faire, on peut pas y arriver. Ce qu'il faut faire, c'est faire ce que MC disait, vivre dans une campagne qui a encore des espaces verts autour d'elle, qui a encore des possibilités de déplacement, une campagne intéressante, des vues intéressantes, des paysages, mais où tu peux faire tes achats, où tu peux faire tes déplacements, tu peux aller à la clinique médicale, ton enfant va à l'école, ça c'est parfait.
À pied.
Ça c'est parfait.
OK, mais à ce compte-là, Luc, là,
oui.
L'être humain est par définition, par essence, une source de pollution, là.
Oui, mais il est particulièrement devenu une source de pollution quelque part dans les années 50, 60, 70, on ne sait pas exactement où, ça dépend des pays, où là, tout à coup, on a mis la consommation sur l'overdrive. Tu sais, la maison moyenne, la taille moyenne d'une maison dans les années 60, c'était 1500 pieds carrés. La taille moyenne d'une maison aujourd'hui, c'est 2300 pieds carrés. Mais il s'est passé quelque chose entre les deux. Les familles ont réduit. Il y a moins d'enfants par famille. Fait que pendant qu'on augmentait la taille de nos maisons, puis la taille de nos véhicules, puis la taille de nos roulottes, mais en particulier la taille de nos maisons, on diminuait le nombre de personnes qui l'habitent. Puis comme on a fait ça, puis comme tout le monde va avoir d'espace autour de lui, ben ça fait que t'as les gens très, très loin les uns des autres, ben assez loin les uns des autres, puis il n'y a pas assez de densité pour faire vivre une boulangerie puis une boucherie à pied. Donc, t'es obligé de prendre ta voiture pour y aller.
Parce
et là, c'est la fin de tout.
Les gens sont partis.
Non, pas parce que les gens sont partis. Parce que regarde,
premier phénomène. Deuxième phénomène, la mondialisation. Avant, là, on n'achetait pas quelque chose qui était fait en Chine. Ou comme Elisabeth Kreitz a présenté ce matin, des pêches qui ont poussé dans le sud de l'Amérique puis qui ont été emballées en Thaïlande puis qui nous vendent ici au métro. Et c'est pour ça que, tu sais, si tu veux acheter le local à Montréal, ça demeure plus difficile, et c'est incroyable, que moi en région, où j'ai pas le choix, où si je prends un plombier, ben c'est le plombier de mon village. Puis si j'achète des fruits et légumes, ils viennent pas mal de mon village. L'été, oui, l'hiver, moins. En ville, ici, même si tu vas au marché Jean Talon, ça a fait du kilométrage, là. Donc, je demeure convaincu que je trouve qu'on trappe beaucoup sur la tête des gens qui habitent.
Non, c'est, mais t'as
en
raison.
Région,
non, regarde.
On leur tape beaucoup sur la tête.
Non,
alors
mais
qu'ils
attends,
font beaucoup plus d'efforts
en
que
en toute
que
justice
les
pour Luc. Je pense que il parle de nos comportements, puis il essaye pas généralement de taper sur la tête des gens qui habitent à Blainville, là.
C'est vrai.
Puis, moi, j'ai pas arrêté de le dire. Il faut arrêter de grossir la taille des villes. Il faut aller. Et moi, je suis passé par Arvida. Arvida, au lac Saint-Jean, c'était. Je suis resté bouche bée. Il y a un Arvida qui a été construit au début du siècle passé. Je sais pas exactement l'année, là. Puis, il avait bien fait les choses, tu sais. C'était joli. Il avait fait une place publique. Il y avait des institutions autour de cette place publique. Il y a une espèce d'usine immense, mais c'est presque beau tellement que c'est immense. Mm-hmm. Mais, ça a arrêté le développement bien raide. Puis, il n'y a plus rien maintenant. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Ça ne s'est pas développé depuis. Et dans ces endroits-là, là, Arvida, je parle du lac Saint-Jean, là, Arvida, Saint-Félicien, même Chicoutimi, tu peux rentrer 15 000 personnes de plus sans que la ville soit dénaturée. Au contraire, ça va l'enrichir, la ville. Elle va être plus belle, elle va être plus intéressante, elle va avoir plus de commerce, elle va avoir plus de rencontres.
Les jeunes partent, ils vont étudier en ville et ne reviennent pas. Premier problème. Deuxième problème, j'habite un village, et ça, je vais critiquer mon village là-dessus, j'en reviens pas. Il y a des maisons à vendre, des maisons ancestrales, oui, parce que c'est des villages. Normalement, le mien a 350 ans, mon village. Tu peux acheter une vieille maison, tout ça. Est-ce que les jeunes veulent ça? Non. Alors, crois-le ou non, dans mon village de 2000 habitants, il y a un nouveau développement.
Ah, ben tu vois.
Avec 8 mini-châteaux, où les gens, ils veulent une maison neuve, parce que c'est grand.
Oui, puis la municipalité veut les taxes.
Exactement. Fait qu'on on repousse toujours un petit peu le champ en pleine campagne.
Ben voilà.
Et là, alors que j'ai 4 maisons à vendre sous ma rue,
Puis ces maisons-là, si jamais quelqu'un les achète, là, je suis sûr qu'il va les mettre au goût du jour. Quand t'entends ces quatre mots-là, sauve-toi en courant.
Oui, parce que dans, c'est vrai qu'on a rénové beaucoup années 60, 70, parce que ça faisait vieux des planches de bois.
Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, les mecs Ferrandaise. Très intéressant, on va remettre ça.
Viens à campagne, on ira en bicycle.
Oh. On va faire un beau tour de bicycle à où? Saint-Anne?
Ben là, il va falloir pédaler en calvasse, parce que ta campagne, comme tu dis, c'est, pas, c'est plus Mascouche, là, c'est rendu plus loin que Joliette.
Ouais, c'est rendu
MC,
loin.
MC, tu parles d'un gars qui est allé à Toronto en bicycle.
Je le sais, je m'en remets pas.
Merci, les gars.
J'étais allé à Washington en bicycle. Arrêtez de parler de Toronto. Là.
Attends d'aller à Copenhague en bicycle.
Non, il prend plus l'avion. Salut les gars.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.